Bonjour au micro, Audrey Passé-Doutier pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, un ancien policier blanc a été inculpé de meurtre hier, 5 jours après avoir abattu Rayshard Brooks, un jeune Africain-Américain à Atlanta. Un autre policier présent sur les lieux fait l'objet de poursuites pour agression et des mandats d'arrêt ont été émis à leur encontre. Ce drame a ravivé des appels à réformer les forces de l'ordre dans ce pays extrêmement pressant depuis le meurtre de George Floyd, un autre Africain-Américain, le 25 mai à Minneapolis. Les sénateurs républicains ont présenté ce mercredi un projet de loi de réforme de la police. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Concernant la pandémie de COVID-19, les États-Unis ont, durant 7 jours d'affilée, déploré moins de 1 000 morts quotidiens, selon l'université Johns Hopkins. Il reste le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 117 000 morts pour plus de 2,1 millions de cas. Malgré ces bilans journaliers encourageants, la première vague de contamination n'en finit pas de durer. L'épidémie s'étant déplacée de New York et du nord-est du pays vers une large bande recouvrant le sud et l'ouest. La Chine et l'Inde affrontent pour leur part une expansion inquiétante du nouveau coronavirus qui poursuit en revanche son reflux en Europe où se multiplient les signes d'un retour à la normale, y compris dans le sport, mais fait encore des ravages au Brésil. Côte d'Ivoire, à moins de 4 mois de la présidentielle, l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé une initiative pour les élections apaisées en 2020. Selon un texte de son porte-parole, Justin Katina-Koné, la Cour pénale internationale a assoupli fin mai des conditions de la liberté conditionnelle de M. Gbagbo, qui a passé 7 ans en détention à La Haye, acquitté en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité. M. Gbagbo doit toutefois encore attendre un éventuel appel de la procureure. Président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à manifester en masse contre le pouvoir vendredi, malgré les signes d'ouverture émis par M. Keïta. L'influent religieux a accusé mercredi le président malien de n'avoir pas entendu le message des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue le 5 juin à Bamako. Au Cameroun, 24 personnes présentées comme des séparatistes ont été tuées lors de 2 récents raids de l'armée camerounaise dans la région anglophone du Nord-Ouest, a affirmé hier le général Valère Nka, chef des opérations militaires dans cette région, interrogé par la radio d'État. John Bolton, l'ex-conseiller présidentiel à la sécurité nationale, accuse le président Donald Trump d'avoir cherché l'aide de la Chine pour gagner sa réélection en novembre. Selon des extraits exclusifs d'un livre à paraître et que l'administration Trump a tenté de bloquer hier encore en urgence par une autre action en justice, le président Trump accusant M. Bolton d'avoir enfreint la loi en diffusant des informations très confidentielles. M. Trump a moqué le passé de son ancien conseiller volontiers patentaire et son soutien passé à la guerre américaine en Irak. Selon le Washington Post, alarmé mais aussi parfois moqueur devant la façon de M. Trump de gérer les relations internationales, plusieurs poids lourds de l'administration Trump, dont son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, ou John Bolton lui-même, ont envisagé de démissionner. Et d'après ce dernier, M. Pompeo aurait tenu sur son patron, dans son dos, des propos peu flatteurs lors d'un sommet avec le Nord-Coréen Kim Jong-un. M. Pompeo a rencontré hier à Hawaï le haut responsable chinois Yang Jiechi lors d'une réunion de crise après les tensions extrêmes qui ont opposé les deux premières puissances mondiales au plus fort de la pandémie.
La suite de nos informations. Au Burundi, le président élu Évariste Ndayishimiye va prêter serment aujourd'hui à Gitega, la capitale politique dans le centre du pays. Le stade Ingoma, où va se dérouler la cérémonie, est repeint aux couleurs nationales et Gitega grouille de milliers de policiers et militaires. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Gitega, deuxième ville du pays, a fait peau neuve. Les maisons, hôtels et le stade Ingoma ont été repeints aux couleurs nationales. Pour la première fois dans l'histoire, un président élu va prêter serment hors de l'hémicycle de Kigobe à Bujumbura, mais devant le peuple. Évariste Ndayishimiye, président élu, va prêter serment dans un stade comble. Le ministère des Affaires étrangères a invité les chefs de mission diplomatique à assister à l'événement. Monsieur Ndayishimiye devait initialement être investi le 20 août après avoir remporté les élections du 20 mai que l'opposition a contesté en vain. Après la mort du président Pierre Nkurunziza, la Cour constitutionnelle a décidé que le président élu devait prêter serment dès que possible. À la question de savoir si le général Ndayishimiye va mener une politique d'ouverture, les militants du parti au pouvoir y croient fermement, mais de nombreux Burundais estiment qu'il ne faudra pas s'attendre à une autre politique que celle prônée par les généraux qui gèrent le pays depuis près de 15 ans.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le vice-président et ex-chef rebelle Riek Machar ont conclu hier un accord sur le contrôle des 10 États que compte le pays. C'était la principale pomme de discorde entre les deux camps depuis la formation d'un gouvernement d'union nationale. Abdourahman Dia.
Après des mois de négociations, les deux rivaux ont accepté de former un gouvernement d'union nationale afin d'en finir avec une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Le camp du président Kiir a obtenu le contrôle de 6 États, dont celui de l'Unité, convoité pour ses ressources pétrolières, et celui d'Équatoria centrale, où se trouve la capitale Juba, a indiqué le ministre des Affaires présidentielles. Le camp de Riek Machar s'est vu attribuer 3 États, dont le Haut-Nil, le plus important en termes de production de pétrole. Un autre groupe, signataire de l'accord de paix, l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud, va contrôler l'État de Jonglei. Le ministre a salué une nouvelle impulsion pour l'application de l'accord de paix. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque Salva Kiir a accusé Riek Machar, son ex-vice-président, de fomenter un coup d'État.
Ici aux États-Unis, des sénateurs républicains ont présenté hier un projet de réforme de la police qui s'attaque au sujet épineux des prises d'étranglement et de la formation des policiers pour tenter de répondre à la vague de colère contre le racisme. Mais son avenir est incertain à la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates qui ont proposé leur propre réforme. Eric Manirakidza.
Tim Scott, le seul sénateur noir et républicain, porteur du projet de loi, souligne que son texte comprenait de fait une interdiction des prises d'étranglement, mais il se limite à supprimer les subventions fédérales aux services de police autorisant cette pratique. Les démocrates, eux, prévoient une interdiction pure et simple dans tout le pays. Le projet de loi républicain prévoit aussi d'utiliser le levier des subventions fédérales pour pousser les services de police à améliorer leur formation ainsi qu'à fournir au gouvernement les données sur les agents signalés pour leurs mauvaises pratiques. Elles viendraient alimenter une base de données prévue par le décret présidentiel. Le texte ne s'attaque pas à l'immunité qualifiée dont jouissent les policiers, contrairement à celui des démocrates. Tim Scott a expliqué qu'inclure des mesures en ce sens le condamnerait à l'échec au Sénat, compte tenu de l'opposition de nombreux élus républicains. Majoritaires au Sénat, ils soumettront ce texte au vote la semaine prochaine. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a jugé inadéquate la proposition des républicains. Les démocrates pourraient également voter la semaine prochaine à la Chambre sur leur propre projet de loi.
La Minute Éco et qui a pas dit.
La Banque mondiale a approuvé ce 16 juin un financement de 385 millions de dollars, près de 224 milliards de francs CFA du fonds IDEA au bénéfice d'un projet d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad. Le projet Alliance Sahel doit accélérer le développement et s'attaquer aux causes de fragilité dans la région du lac Tchad et soutenir l'accès à l'électricité pour améliorer les conditions de vie des habitants. Le président de l'Assemblée nationale du Mali, Moussa Tibiné, a rencontré mardi les producteurs de coton et leurs syndicats. Les producteurs maliens veulent que le prix d'un kilo de coton graine soit payé 275 francs CFA au lieu de 250 francs CFA et que le sac de l'engrais leur soit cédé à 11 000 francs CFA. Si une entente n'est pas trouvée d'ici le 20 juin, la saison cotonnière serait fortement menacée avec de graves conséquences sur l'économie du Mali car le coton contribue beaucoup au PIB. Le gouvernement ivoirien a conclu le 16 juin un accord avec 12 entreprises du secteur de l'EVA pour accroître la transformation locale du caoutchouc. D'ici à 2023, les industriels ont prévu d'investir 56,5 milliards de francs CFA pour développer leur capacité de production et pouvoir transformer 460 000 tonnes supplémentaires d'ici à 2023.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Une infraction énorme à la probité qui a causé un préjudice mondial. C'est ainsi que le parquet national financier a qualifié les faits reprochés à Lamine Diack et autres dans le procès d'un système de corruption sur fonds de dopage en Russie et d'argent des sponsors. Il a requis 4 ans de prison contre l'ancien patron de l'athlétisme mondial et 5 pour son fils Papa Massata, contre le père et le fils absent à son procès et contre lequel un mandat d'arrêt a été requis. Les procureurs financiers ont aussi réclamé 500 000 euros d'amende chacun et une interdiction d'exercer dans le sport. L'ancien président entre 1999 et 2015 de la Fédération internationale d'athlétisme et son fils, qui avait la main sur le marketing à l'IAF, sont jugés à Paris avec 4 autres personnes pour avoir permis de retarder à partir de 2011 des sanctions disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage. En Angleterre, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez a battu Arsenal du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang 3-0 hier pour un retour du championnat anglais de football après 3 mois de pause, comme lors du premier match Aston Villa-Sheffield United 0-0 un peu plus tôt. Joueurs, arbitres et membres des staffs sur le banc ont mis genoux à terre au moment du coup d'envoi, reproduisant le geste popularisé par le mouvement qui lutte contre le racisme et les violences policières. Juste avant, ils ont respecté 1 minute de silence en signe de gratitude envers le personnel du service de santé britannique pour ses efforts dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Sur le plan sportif, cette victoire des Citizens a pour principal effet de décaler d'au moins 24 heures un probable couronnement de Liverpool qui attend son premier titre de champion depuis 30 ans. Avec un écart entre les Reds et leurs Dauphins revenu à 22 points, une victoire dimanche dans le derby contre Everton ne suffira pas au bonheur des hommes de Jurgen Klopp. Il leur faudra gagner à Goodison Park et espérer que City perde à domicile le lendemain contre Burnley. Toujours en Europe, pour cette saison, la Ligue des Champions, suspendue en mars à cause du Covid-19, sera complétée par un mini-tournoi à 8 équipes qui se tiendra à Lisbonne en août. Selon l'annonce faite par l'UEFA, les quarts de finale et les demi-finales se dérouleront sur un seul match, la finale devant se tenir le 23 août. Les 4 derniers matchs retour, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea, Juventus Olympique Lyonnais et Barcelone-Napoli auront lieu les 7 et 8 août. Le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, l'Atalanta Bergame et le RB Leipzig se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. La fin de la Ligue des champions féminines, suspendue au stade des quarts de finale, se déroulera aussi dans un format raccourci de type Final 8 en Espagne du 21 au 30 août.
Le
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, Évariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, prête donc serment aujourd'hui pour remplacer Pierre Kourounziza, décédé le 8 juin. Pour une analyse, Bagassi Koura, adjoint à Liège en Belgique, Bamvugu Nyomvira, Frédéric, ancien vice-président du Burundi.
Un pays qui n'est pas gouverné, qui n'a pas de chef d'État, même une minute, c'est beaucoup. Donc c'est là où je dis qu'il fallait absolument pourvoir à son remplacement le plus rapidement possible. C'est vrai, la question, la mort d'un président après que l'autre ait été élu, en attendant que la date, le mandat se termine, cette question n'avait jamais été prévue dans notre constitution. Il faut agir, la jurisprudence exige qu'on trouve des solutions. C'est pour cette raison que la Cour constitutionnelle a pensé trouver une solution du genre. Mais sinon, en ce qui nous concerne, ça ne nous rend ni chaud ni froid.
Alors, la question avait été posée entre les constitutions de 2005 et celle de 2018. Laquelle appliquer? À votre avis, quelle est la voie suivie?
Pratiquement, ce qui est prévu par la constitution, que ce soit celle de 2005 ou celle de 2018, c'est qu'on prévoit le pourvoi de l'institution, du chef de l'institution présidentielle, lorsque celui-là, la mort intervient ou la cause de cessation des fonctions puisse intervenir avant la fin du mandat de celui-là qui, justement, était en place. Mais la question qui se pose maintenant, c'est que rien n'avait été prévu lorsque cette mort intervient et après l'élection de celui-là qui doit succéder au président de la République. Alors, fallait-il précipiter l'investiture? Fallait-il attendre la fin du mandat de celui-là qui venait de mourir? Non, la question qui se pose, c'est que, en réalité, il fallait, dans l'immédiat, pourvoir à l'institution présidentielle, parce que peut advenir que le pays puisse faire face à beaucoup de problèmes qui exige l'intervention d'un chef d'État.
Si vous étiez Ndayishimiye et intronisé demain, quelles seraient vos premières décisions?
Si moi j'étais Ndayishimiye, ma première décision devrait absolument d'arrêter les actions des Imbonerakure, parce que ça crée beaucoup de désordre dans le pays.
Et d'autres décisions?
D'autres décisions, c'est d'aller tendre la main à tous les opposants pour qu'on discute de l'avenir du pays, pour qu'on puisse absolument revenir sur l'accord d'Arusha, voir ce qu'il y avait de positif qui pouvait nous aider à pouvoir avancer. Réconcilier le peuple, faire la paix et faire le développement. Ça devrait être ça, les grandes préoccupations de cette personne. Et quatrièmement, évidemment, c'est comment redorer l'image du Burundi dans le concert des nations. Ça, c'est fondamental aussi.
Bamvugu Nyomvira, Frédéric, ancien vice-président du Burundi, aujourd'hui opposant, vivant en exil à Liège, en Belgique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a annoncé cette semaine l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances du meurtre, a-t-il dit, d'un magistrat qui était en charge du procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet et allié politique du président Félix Tshisekedi. Le juge Raphaël Yanii Ovungu est mort dans la nuit du 26 au 27 mai, moins de 48 heures après avoir présidé la deuxième audience de ce procès. Eddie Isango a joint le vice-premier ministre et ministre de la Justice Célestin Tunda Yakasende qui condamne au nom du gouvernement ce qu'il a appelé un acte ignoble.
L'autopsie a révélé des traumatismes au niveau crânien qui sont des résultats des coups à la tête que le juge avait reçus. Donc, c'est ça qui confirme le fait que c'est un meurtre. parce qu'il a été frappé avec des instruments sur la tête, sur le crâne. Il y a eu coagulation du sang dans la tête.
Est-ce que les médecins légistes ont pu déterminer quand est-ce que les coups auraient pu être donnés? Est-ce que c'était juste avant les décès ou ça datait de quelques temps?
Mais puisque les coups sont la cause du décès, donc ça veut dire que les coups ont été donnés quelques temps avant le décès. Si les coups ont été donnés après, les coups ne seraient pas la cause du décès. Et les coups ont été bel et bien donnés avant le décès.
C'est-à-dire quelques heures avant le décès, parce que quelques heures avant, il était au procès.
Oui, quelques temps, les enquêtes sont en train d'être faites pour essayer d'établir les autres éléments.
Mais qu'en est-il alors des substances toxiques qui ont été trouvées dans son corps?
Les substances toxiques, toute substance toxique peut être un poison. Ça dépend maintenant de la teneur de cette substance. Et dans le cas d'espèce, ce n'était pas des substances létales. Ça restait des substances végétales, mais dont la dose est inférieure et très basse et ne peut pas avoir de lien avec le décès.
Maintenant que vous avez annoncé une ouverture d'enquête, est-ce qu'il y aura un impact sur les procès qu'il présidait, en fait qu'il a laissé en cours, qui aura son verdict le 20 juin? Le procès de Vital Kamerhe, je vais dire.
Non, le procès, vous dites qu'il aura les articles le 20, mais ici, nous sommes encore au niveau des enquêtes. Il faut laisser les enquêtes continuer. On ne peut pas savoir ça aura l'impact, si ou quoi, ça aura quelle implication. Laissons les enquêtes se poursuivre dans toute indépendance.
L'autopsie a connu aussi la participation des experts indépendants, comme vous le dites, la MONUSCO et autres, c'est cela?
Oui, la MONUSCO, c'est une structure internationale qui dépend des Nations Unies et qui ont des experts habilités à ce genre de travail.
Et ils ont attesté les mêmes résultats?
Ils ont fait le rapport écrit.
Les avocats de la famille ne semblent pas accepter cela parce qu'ils mettent en doute, ils demandent quand est-ce qu'il aurait pu être frappé.
C'est le droit, chacun a le droit d'accepter ou de ne pas accepter, c'est tout à fait normal. Mais nous donnons la version des médecins légistes, de leur côté aussi, ils peuvent saisir la justice.
Les gens se demandent s'il faut s'attendre à quelque chose à cette enquête qui a commencé, parce qu'il y a bien d'enquêtes qui ont été menées en RDC mais qui n'ont jamais abouti.
Oui, mais ce sont les mêmes gens qui croyaient que les enquêtes de 100 jours n'aboutiraient à rien.
Le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda Yakassende.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Des millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire au Cameroun en raison de la pandémie de coronavirus. Selon un panel d'experts réunis cette semaine à Yaoundé sous l'égide de la Fondation Frédéric Hébert, les premières mesures barrières prises par le gouvernement le 17 mars dernier ont affecté toute la chaîne de production alimentaire du pays. Le risque d'une crise alimentaire est désormais très élevé dans les secteurs agricoles et de l'élevage. De Yaoundé, Emmanuel Jultap.
4 800 000 personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire dans les 10 régions du Cameroun. Soit 700 000 ménages, selon l'ingénieur agro-socio-économiste Bonas Safo. Pourtant, au début du mois de mars, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire était estimé à 2,660 millions. Si le chiffre a doublé, c'est à cause de l'impact des restrictions prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Bonas Safo, ingénieur agro-socio-économiste en service au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.
Les chaînes d'approvisionnement alimentaire sont perturbées par les restrictions de mouvement, le comportement d'évitement des travailleurs, l'accès restreint aux exploitations agricoles. On constate aussi la disponibilité limitée d'un champ agricole, qui est un autre défi pour la poursuite de la production agro-pastorale.
De ce fait, les petites productrices agricoles et les populations des zones rurales sont encore plus exposées à l'insécurité alimentaire, notamment dans les deux régions anglophones, en proie à une crise sécuritaire depuis novembre 2016. Là-bas, l'impact du COVID-19 s'est aussi traduit par la baisse de la demande dans les ménages. Florence Mbangan est productrice et vendeuse de vivres frais à Bamenda.
Cette faible demande est due en partie au faible pouvoir d'achat des habitants du village qui dépendent des membres de leur famille travaillant dans des villes urbaines comme Bamenda, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Certains de ces membres de la famille ont perdu leur emploi ou subi des réductions de salaire en raison de l'impact de COVID-19 sur les pertes et les réductions de salaire de leur entreprise.
Les mesures barrières prises par le gouvernement telles que le confinement, les interdictions de voyager, la fermeture des frontières, la limitation des heures d'ouverture, des établissements de vente des produits alimentaires ont également fortement affecté le secteur de l'élevage. Hamadou Adama Laminou est junior des industries animales.
Il y a des producteurs qui n'arrivent pas à rejoindre les marchés pour pouvoir écouler leurs produits d'élevage. En plus, il y a aussi la psychose des investisseurs, des fermiers, etc. Parce que beaucoup disent que la COVID, elle est contaminée en mangeant des denrées d'origine animale.
La limitation des activités d'exportation par fret a rendu désormais ce secteur des échanges très vulnérable, explique Guy Jacques Wamba. Consultant.
Les entreprises du secteur ananas pour l'export perdent en moyenne 12 tonnes et demie de produits par semaine à cause de ces problèmes espace fret. Et seul un tiers d'entre elles ont trouvé des marchés alternatifs.
Face au risque très élevé d'une crise alimentaire au Cameroun, les experts recommandent entre autres gouvernements la distribution de l'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables ou encore l'élaboration d'un plan d'approvisionnement en intrants agricoles, produits phytosanitaires et semences végétales. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
La police kényane a annoncé l'inculpation d'un de ses agents pour la mort d'un garçon de 13 ans pendant le couvre-feu dû au coronavirus. Yacine Moyo a été abattu fin mars alors qu'il se trouvait sur le balcon chez lui à Nairobi. Les militants des droits de l'homme accusent les policiers de brutalité et d'homicide. Reportage de Lenny Rouvaga à Nairobi, repris ici par Nathalie Barge.
Le fils de 13 ans de Hussein et Adidja Moyo a été abattu lors de l'application du couvre-feu par la police. Hussein se dit soulagé d'apprendre qu'un policier sera jugé pour la mort de son fils.
Mon voisin, qui a été témoin de l'incident, l'avait pointé son arme, visé sa cible et tiré. Mais en ce moment-là, ma fille aînée avait dit à sa mère, sortons de ce balcon, ce n'est pas sûr. Mon épouse a alors fait signe aux enfants de s'enfuir, mais il était trop tard. Yacine avait été touché par la balle.
Charles Wino, un porte-parole de la police, a confirmé que l'officier devait être inculpé pour la mort de l'adolescent qu'il décrit comme un accident.
Nous savons qu'il ne l'a pas fait intentionnellement, mais il a quand même commis un crime d'homicide involontaire ou autre. Il a tué un innocent par négligence professionnelle. S'il avait fait son travail professionnellement comme il a été formé, nous n'aurions pas perdu ce garçon.
Plusieurs manifestations ont eu lieu ce mois-ci pour dénoncer une augmentation des incidents de violence policière pendant le couvre-feu. Awa Hussein, qui a perdu son mari, a participé à des marches dans le quartier populaire Mataré à Nairobi, où Yacine Moyo a été tué.
Nous en avons assez de la brutalité policière. Ils tuent nos jeunes, y compris mon défunt mari. J'ai un jeune fils et en protestant, je me bats pour son avenir parce qu'il y a constamment des exécutions extrajudiciaires et nos voix ne sont pas entendues.
L'autorité indépendante de surveillance de la police du Kenya affirme enquêter sur 15 décès liés à la police depuis mars et que 5 autres policiers font face à des accusations pour agression antérieure au couvre-feu. Rama Wako, une activiste du centre de justice Kiamaiko, dit douter de l'intégrité de cette agence fédérale.
Nous pensions que l'IPOA mettrait en accusation davantage d'agents voyous dont nous savons en tant que communauté qu'ils ont commis des homicides. Mais il ne s'est rien passé et c'est pourquoi nous nous demandons quels sont les pouvoirs de ces policiers.
L'IPOA a fait condamner cet officier depuis sa création en 2012. Les militants des droits humains affirment que les violences policières se comptent par dizaines. Le 11 juin dernier, trois policiers ont été arrêtés après avoir traîné derrière une moto une femme, en partie dénudée et molestée. L'incident filmé et publié sur les réseaux sociaux avait suscité l'indignation dans tout le pays.
Voilà, c'est tout pour cette édition.